Si nous n'avions pas le secours du Saint-Esprit, nous ne pourrions pas comprendre les choses en profondeur. Ce n'est pas une routine que de demander avant la prédication, de demander au Saint-Esprit de nous aider à comprendre, de nous aider à approfondir les choses, et que les choses ne restent pas en surface dans nos vies, mais qu'elles se concrétisent vraiment dans ce que nous avons à vivre. Prions Dieu. Oui, nous te bénissons, Seigneur, d'être présent au milieu de nous. C'est une promesse que tu as faite, Seigneur, lorsque tu as répandu ton esprit sur tes enfants. Alors nous savons que ton esprit vit en nous, mais nous savons que ton esprit est aussi dans ce lieu de culte, Seigneur. Et nous voulons te demander ton onction pour que les paroles qui vont être dites, Seigneur, soient des paroles inspirées par toi. Mais surtout qu'elles soient des paroles qui prennent vie en nous, dans notre façon de vivre, dans notre façon d'aimer les autres, dans notre façon de t'aimer, Seigneur, dans notre façon de te servir. Et te servir, Seigneur, c'est quoi? C'est servir les autres et c'est les aimer. Alors nous te bénissons de ce que tu veux faire maintenant, Seigneur. Garde-nous tous. Ouvre nos intelligences, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs pour que nous comprenions vraiment, Seigneur, ce que tu veux dire à chacun d'entre nous dans le plus profond de son cœur. Amen. Je vais vous lire quatre versets dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, Matthieu 10, à partir du verset 34. Donc c'est Jésus qui parle. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. De nombreuses versions de la Bible traduisent le verset 38, comme je viens de le lire, et je vous le répète. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Eh bien, cette traduction, frères et sœurs, n'est pas fidèle au texte grec. Et de plus, elle nous empêche de prendre conscience d'une chose importante que nous devons intégrer dans notre relation avec Christ. Que dit le texte grec? Il dit: celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Ça, c'est la français courant. Ou bien la Nouvelle Bible Seconde dit: celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Je fais juste remarquer que la mauvaise traduction Seconde de 1978 a été rectifiée dans la Nouvelle Bible Seconde de 2002. Et puis j'ai regardé aussi dans certaines traductions anglaises, elles sont fidèles au texte grec. Alors, pourquoi tant d'insistance de ma part sur cette erreur de traduction? Eh bien, premièrement, parce qu'il est important de lire le texte tel qu'il nous a été transmis. Et deuxièmement, pour que nous comprenions que si nous ne portons pas notre croix, Notre façon de suivre Jésus, c'est-à-dire notre façon d'être disciple, n'est pas conforme à ce qu'il veut. Ou, comme le dit Jésus lui-même, nous ne sommes pas dignes de lui. Nous verrons que ce n'est pas un détail lorsque nous comprendrons ce que veut dire porter sa croix. Dans la compréhension commune, porter sa croix signifie être confronté à de grandes souffrances physiques ou morales liées à des événements que l'on subit ou qui sont destructeurs. Il est courant d'entendre des personnes dire « je porte ma croix » lorsqu'elles sont affectées par des maladies à répétition, des dépressions, des conflits graves avec leur famille, des deuils d'enfants, etc. Ou d'entendre des témoins de ces situations dire « ils portent vraiment leur croix ». Eh bien, cette compréhension n'est pas ce que Jésus a voulu dire lorsqu'il enseignait ses disciples. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Eh bien, pour le comprendre, il faut d'abord regarder quel est le point commun des trois versets, les trois derniers versets que je vous ai lus. Et comme nous allons le voir, le point commun, c'est un choix que nous avons à faire. Et de ce choix dépend la qualité de notre relation avec Dieu. Au verset 37, Jésus nous dit que lorsque nous aimons notre père, notre mère, notre fils ou notre fille plus que lui, nous sommes indignes de lui. Il nous place donc devant un choix. Qui aimons-nous d'abord ? Quelles sont nos priorités ? Au verset 38, Jésus nous dit que pour le suivre, c'est-à-dire pour être son disciple, il faut porter sa croix. Remarquons que cela sous-entend qu'on peut vouloir suivre Jésus sans porter sa croix. Et dans ce cas, Jésus nous dit aussi que nous ne sommes pas dignes de lui. Là aussi, il est donc question de faire un choix. Et au verset 39, c'est encore une question de choix, toujours en rapport avec la relation que le chrétien veut avoir avec Jésus. Je vous le relis. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Si on cherche à s'épargner les souffrances inhérentes au fait d'être disciple de Jésus, soit on cherche plutôt à s'épargner les souffrances inhérentes au fait d'être disciple de Jésus, soit on fait le choix volontaire de servir Jésus, quelles que soient les conséquences. Dans le premier cas, on préserve son confort de vie en pensant d'abord à soi-même. On cherche à éviter les contraintes, les souffrances, les moqueries peut-être, les incompréhensions, les persécutions. Oui, on évite cela, mais on perd la relation intime que Dieu veut avoir avec nous. Dans le second cas, on perd son confort de vie. On ne s'appartient plus à soi-même. On n'est plus maître de son temps, de ses loisirs. Mais on gagne une richesse qui ne se mesure ni en euros, ni en dollars, mais en termes de communion profonde avec Dieu et de paix profonde et de joie que cette communion entraîne. Nous comprenons que ces choix décisifs que nous devons faire conditionne notre relation avec Dieu. Alors essayons d'approfondir maintenant ce que Jésus a voulu enseigner à ses disciples et à nous-mêmes, bien sûr. Jésus n'a pas employé le mot croix par hasard. Pour lui, le premier, ce mot est lié à la souffrance, car il avait annoncé à ses disciples qu'il allait être crucifié. On voit cela dans Matthieu 20, 19. Dans les autres évangiles, on nous dit « ils me mettront à mort ». Mais dans Matthieu 20, 19, Jésus dit « ils me crucifieront ». Il y a deux choses essentielles à comprendre concernant la croix de Jésus. La première, c'est que c'est la preuve la plus grande de son amour, mais aussi de notre salut. Je le cite dans Jean 15, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jésus ne s'est pas contenté de dire cette phrase, il l'a fait. La deuxième chose à comprendre, c'est que c'est volontairement que Jésus s'est offert en sacrifice. Et là aussi, je le cite, « Je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Jean 15. Alors, lorsque Jésus enseigne que chaque disciple doit porter sa croix, il fait incontestablement un lien et un parallèle avec la croix sur laquelle il a été cloué. Ces deux choses essentielles, c'est-à-dire l'amour et le sacrifice volontaire, se retrouvent aussi dans cette exhortation à porter notre croix. Je m'explique. Nous l'avons dit, Christ nous a aimés jusqu'à la croix pour nous sauver. Alors, nous devons faire connaître aux autres l'amour de Christ pour que eux aussi soient sauvés. Christ a accepté les souffrances de la croix. Alors, nous devons accepter aussi les souffrances qu'engendre le fait d'être de ses disciples. Et là aussi, je cite Jésus. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. C'est dans Jean 15, 20. Jusqu'où va le parallèle entre les souffrances de Christ à la croix et les souffrances du disciple lorsqu'il porte sa croix dans ce monde? C'est important de bien comprendre. Bien sûr, frères et sœurs, et vous le savez tous, la croix de Christ est directement et pleinement rédemptrice. C'est le sacrifice unique et parfait de Jésus qui nous sauve. Mais qu'en est-il de la croix du disciple? Alors, bien sûr, là aussi, elle n'est pas directement rédemptrice, c'est sûr. Elle l'est indirectement, car elle peut conduire des hommes au salut. Comment? Eh bien, dans la mesure où la mission première du disciple est de faire connaître aux autres l'amour et le pardon de Dieu, même dans un climat hostile à l'Évangile, même dans un climat qui peut engendrer de la souffrance. Frères et sœurs, vous le savez, c'est ce que vivent des centaines de milliers de chrétiens dans 50 pays au moins, où ils sont persécutés à cause de leur foi, et où pourtant la foi est la plus vivante, et on le sait. Quelle vision avons-nous d'une vie chrétienne idéale? La vision d'un long fleuve tranquille, nous transportant de bonheur en félicité tout au long de notre existence, où nous pouvons jouir de l'amour ineffable de Dieu, sans écueil, sans combat. Ce n'est pas ce que Jésus a dit de sa mission, ni ce qu'il a vécu. Et je vous relis le verset 34, le premier verset de tout à l'heure. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. J'espère que nous comprenons tous que ce n'est pas un but délibéré de Dieu. mais que ces divisions entre membres d'une même famille sont les conséquences d'appartenir ou de rejeter Jésus. Écoutons maintenant ce qu'a écrit un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Leanne Payne, dans un livre qu'elle a écrit qui s'appelle « Vivre la présence de Dieu ». Voilà ce qu'elle dit. « Il existe une vraie et authentique souffrance, spécifiquement chrétienne, que nous subissons en portant notre croix. Lorsque nous permettons à Christ de vivre en nous et à travers nous, nous nous trouvons aux prises avec un combat spirituel. Sa lumière en nous se heurte aux ténèbres du monde. L'ignorance, la haine, les mensonges et tromperies qui aveuglent l'âme des hommes et des femmes se répercutent aussi dans les structures culturelles, dans les structures institutionnelles et gouvernementales qu'ils créent. Quand nous, qui sommes les messagers du royaume, rencontrons les mensonges et illusions de ce monde obscurci et déchu, eh bien, nous entrons dans un conflit. Et toute souffrance volontaire que nous endurons en exerçant notre rôle d'instrument de la vie de Christ constitue ce que la parole appelle porter sa croix. Et par conséquent, ajoute-t-elle, ce sont la joie et la paix, et non des regards de martyrs et de visages allongés qui caractérisent ceux qui portent vraiment leur croix. Il n'y a pas de meilleure illustration de ce qui vient d'être dit que le récit de l'emprisonnement de Paul et de Silas à Philippe. Parce que Paul avait chassé un esprit de divination d'une servante, cet esprit de divination qui rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres. Ceux-ci les traînèrent devant les autorités de la ville. Qu'est-ce qui leur est advenu ? Ils furent roués de coups et jetés en prison comme des criminels avec des fers aux pieds. Et le texte nous dit ensuite, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Acte 16, 25. Oui, Paul et Silas portaient joyeusement leur croix, même au travers de leurs souffrances. Alors, porter sa croix, frères et sœurs, ça n'est pas une option. Ça n'est pas un bonus qui viendrait s'ajouter à une vie chrétienne normale. De même que la croix de Christ est au cœur du salut des hommes, porter sa croix est la mission de chaque disciple, c'est-à-dire de chaque chrétien. Et quelle est-elle, cette mission ? C'est faire connaître et apporter l'amour de Christ à ceux qui ne le connaissent pas encore, même dans un climat hostile à la foi chrétienne. Qui pourrait dire qu'en France, les chrétiens sont persécutés ? Je pense que personne ne pourrait le dire. Et pourtant, combien de fois avons-nous renoncé à parler de Jésus par crainte qu'on se moque de nous ou qu'on nous rejette ? Alors demandons pardon au Seigneur pour ce confort de vie que nous avons voulu ménager. Mais demandons-lui aussi de nous donner du zèle, oui, du zèle, de l'audace, pour que nous le servions et que nous le servions en portant vraiment, joyeusement, notre croix. Les paroles que tu nous as dites, Seigneur, et que nous ont été transmises à travers les évangiles et ceux qui les ont écrits, elles ne sont pas faites pour nous bercer. Elles ne sont pas faites pour nous bercer d'illusions. Elles sont faites pour qu'elles se gravent dans nos cœurs. Afin, Seigneur, que ce que tu nous as dit, nous ayons à cœur de le mettre en pratique. Alors conduis-nous, Seigneur, à avoir cette audace, cet amour pour toi, cet amour pour les chrétiens, pour les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas, les âmes perdues. Donne-nous cette audace, Seigneur. Et quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conséquences, Seigneur, nous puissions annoncer que ton amour est immense, que tu as donné ta vie sur la croix pour nous sauver, gratuitement. Ô Seigneur, fais-nous comprendre la grandeur de ton amour. Et alors nous pourrons être des témoins, oui, joyeux, joyeux, comme nos frères dans ces 50 pays qui subissent des persécutions pas croyables, joyeux comme eux. Car même à travers les drames de leur vie, ils annoncent, ils continuent à annoncer Jésus-Christ. Et on voit à quel point, Seigneur, cela porte des fruits. Alors que dans notre pays si tranquille et si paisible, Seigneur, pour l'instant encore, nous puissions être ces témoins-là. Amen. Amen.